Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch. Et oui, on est sur Twitch, mais sur Origa Twitch, l'endroit où j'ai déménagé avec cette émission que vous connaissiez peut-être sur ma chaîne personnelle, Gotoz, sur YouTube, et qui désormais, eh bien, rejoint la galaxie Origami avec mes copains. Je suis avec mes copains, je suis trop content. La matinale est devenue la mardinale, ce qui vous explique en gros que ce n'est plus une matinale de tous les jours, ce que ce n'était plus depuis longtemps, mais un rendez-vous hebdomadaire, le mardi, sur Twitch, à 10h30, et le soir, vers l'heure de l'apéro, sur YouTube et en podcast, pour la version replay, cutée, comme on avait l'habitude de le faire ces trois dernières années. D'ailleurs, si vous étiez abonné au podcast, eh bien restez abonné car le flux ne change pas. Vous continuerez à recevoir les prochaines émissions sur votre application de podcast préférée. Normalement, ça a été plutôt bien préparé cette affaire. Alors, est-ce que l'émission va changer énormément, dit-il, exactement dans le même décor qu'avant, avec les mêmes playlists qu'avant, avec la même DA qu'avant? La réponse est pas trop. On va continuer sur notre lancée. Cependant, je veillerai. Comme vous avez pu le remarquer, l'actualité du jeu vidéo et l'industrie du jeu vidéo sont des endroits particulièrement déprimants ces temps-ci. Je veillerai à vous proposer quand même des choses qui soient équilibrées, non pas pour masquer le déprimant de l'industrie du jeu vidéo, mais peut-être que je choisirai un petit peu plus d'équilibrer les choses pour également vous amener, pas des bonnes nouvelles que je suis allé chercher à l'autre bout du monde, mais ne pas les oublier parce que en ce moment, ça craint de partout. Alors je sais qu'il y a des gens qui suivaient mon émission il y a 2 ans, par exemple, et qui déplore les très très longues sessions de découverte de bandes annonces de jeux vidéo, et notamment des jeux vidéo indépendants, des trailers, etc., que j'avais fini par retirer au fur et à mesure parce que je n'ai qu'un cut jusqu'à la version audio et que j'aimais pas trop cet aspect. Les trailers écoutés pour les gens qui écoutent le podcast, c'est pas incroyable. Sachez cependant que sur la grille d'Origami, il y aura d'autres endroits où faire des découvertes de jeux indépendants assez peu connus qui sortiront dans les temps à venir, notamment Wishlist, mon émission que je compte lancer dans les semaines à venir si tout se passe bien. Donc en fait, dans l'offre d'Origami, vous aurez à la fois un truc centré sur l'industrie, un truc centré sur l'indé et sur les jeux indés à venir et sur se créer une belle ligne d'horizon, et puis également avec le reste, avec Super Vieux Jeu, avec Internet Exploreuse et avec Origami l'hebdo, qui continuera à traiter l'actualité mais de manière un peu plus globale, avec un dézoom un peu plus prononcé, et qui me laissera aller en profondeur sur les différents sujets, notamment les sujets d'industrie. Les sujets d'industrie, il y en a beaucoup en ce moment, mais j'avais quand même envie de commencer avec une bonne nouvelle. En gros, on va partir de quasiment mi-décembre et on va arriver jusqu'ici avec une espèce de résumé le plus compact possible des choses importantes à retenir. Cependant, j'avais quand même envie de passer par juste une bonne nouvelle, fondamentalement bonne pour tout le monde, la disparition de Bobby Kotick du monde du jeu vidéo. Non, je plaisante. D'abord, il y en a une autre qui est un petit peu plus tournée vers les jeux et rien que les jeux. Citizen Sleeper, un jeu que j'aime énormément, vous le savez, un jeu narratif, RPG, qui se passe dans l'espace avec une DA par Guillaume Saint-Gelin, qui a travaillé avec Origami, je préfère en faire le disclaimer, recevra très bientôt une version française. Dans les premiers jours du mois de février, le 2 février je crois, une version française pour un jeu de Jump Over the Edge, ce développeur australien qui jusqu'ici n'avait pas fait localiser ses jeux, c'est un événement, d'autant que l'anglais pouvait être un peu technique à l'occasion, et ça pouvait empêcher des gens de découvrir un incroyable jeu avec des incroyables personnages et une écriture incroyable. Et figurez-vous que la VF, elle est assurée par un studio qui s'appelle Riot Lock. Et Riot Lock, l'an dernier, en matière de localisation française, ils ont juste fait celle de Baldur's Gate 3. Donc, ça devrait aller. Grosso modo, on devrait s'y retrouver et on devrait comprendre tout ça sans trop de soucis. Une autre nouvelle qui sera bonne ou mauvaise selon là où vous vous placez, c'est l'arrivée normalement cette semaine, vendredi, de Palworld. Ce mélange entre un MMO, entre Pokémon, mais aussi avec des M16 et des animaux qui fabriquent des armes. On ne sait pas vraiment si Palworld est vraiment un jeu ou si c'est un scam. On a vu d'autres jeux, tout miser sur la communication, apparaître dans les publications les plus en vue, apparaître aux Game Awards parfois et être quand même des scams. Ça s'est vu. Donc Palworld apparaîtra du coup en cette fin de semaine et on verra ce que ça vaut. À mon avis, si vous suivez un petit peu, si vous êtes branché Twitch, vous risquez de voir du Palworld dans tous les sens parce que clairement ça risque d'être très agressif en matière de communication, en matière de marketing, et on saura très très vite où se placer et à quel point on est sur une douille ou pas. Maintenant, on peut le dire, bonne année 2024, et meilleurs vœux, bien sûr, et surtout, c'est parti pour ce que j'ai décidé de baptiser le chaud-froid de Noël. Et j'en ai parlé un petit peu avant, effectivement, Bobby Kotick ne travaille plus chez Activision, et ça c'est vraiment un truc, voilà, fondamentalement, indiscutablement bon, une bonne nouvelle, Robert A. Kotick ne travaille plus au contact direct du jeu vidéo, une industrie sur laquelle il a quand même projeté une ombre assez terrible pendant près de 35 ans. Alors, bien sûr, son contrat avec Microsoft Activision s'est arrêté le 29 décembre dernier. Bien sûr, son parachute doré aurait pu être une navette spatiale, hein, vu la taille et le montant du parachute. Mais au moins, ce n'est plus lui qui dicte les règles. Désormais, on peut donc déjà lever notre verre à 2024 pour ça. Se dire que sous le contrôle de Microsoft, Activision peut redevenir un tant soit peu imprévisible et laisser peut-être certaines équipes faire autre chose que du Call of Duty. Déjà, ce sera un grand pas en avant. Et même du côté de Microsoft, hein, perso, j'ai vraiment une curiosité vis-à-vis de ce qu'ils feront du catalogue de licences dormantes qui a été acquis en même temps que les différents studios de développement. Et puis côté business aussi, on sait qu'il va y avoir des choses à reconstruire, hein, et chez Activision Blizzard par exemple, on connaît le premier chantier. On a appris que Microsoft a déjà commencé à reconstruire la relation d'Activision avec NetEase en Chine, hein, parce que je vous rappelle que on avait appris que Bobby Kotick avait vraiment brûlé ce pont avec NetEase, surtout durant l'année dernière. On avait des bruits de couloir, hein, qui parlaient d'affaires d'ego assez mouse qui avaient empêché Blizzard de continuer à pouvoir se distribuer tranquillement et profiter de la manne financière de la Chine. Et il était clair que Microsoft avait de très gros projets pour faire fructifier ce catalogue Blizzard en Chine, parce que ça permet de doper les revenus de sa division jeux vidéo. Donc il semblerait que voilà, les appels, les petites lettres, les corbeaux aient déjà été envoyés direction NetEase pour dire si vous voulez négocier avec des gens qui sont pas complètement terrifiants, non pas que ce soit des enfants de cœur non plus, peut-être qu'il y a moyen qu'on refasse quelque chose ensemble. Bon, on est un peu mignon là, voilà, on boit à la santé du capitaine, comme si on l'avait mis au fer et puis ensuite qu'on l'avait précipité par-dessus bord, mais c'est quand même une boisson un peu amère au final, hein, parce que Bobby Kotick a gagné. Comme on dit, la banque gagne toujours et Bobby Kotick a gagné. Hein. Il n'a pas été rattrapé par la justice. Il n'a jamais été désavoué par son conseil d'administration. Il sort en héros de la finance de cette histoire, en héros de la finance et des médias. On ouvre les guillemets. Il a racheté un éditeur au bord de la faillite. Il en a fait l'un des plus gros acteurs du jeu vidéo au monde et l'a revendu pour presque 70 milliards. Je veux dire, c'est une quatrième de couverture. Elle est déjà écrite en fait. Ça fait chier. Mais au moins, il n'est plus là. En tout cas pour le moment, il y a des gens qui pensent qu'ils pourraient réapparaître ailleurs, et à titre personnel, ça me terrifie un peu. Là par exemple, bon, c'était une bonne nouvelle, mais j'avais envie de revenir vers le jeu vidéo simple, bête, méchant, juste qui fait plaisir comme ça. Eddie Gordo est de retour dans Tekken 8. Ça veut dire que les serpillères comme moi, elles vont à nouveau pouvoir gâcher le plaisir des esthètes comme vous. Et forcément, ça fait plaisir à beaucoup de monde, comme moi. Alors je vous recommande la vidéo promo de Brian Cox, hein, qui raconte Tekken, donc Brian Cox, acteur qui a été révélé au très grand public par la série Succession, et donc lui va venir nous raconter la famille Mishima façon Succession. Je sais pas comment ça s'est signé un truc pareil, je sais pas combien l'acteur a pris pour parler du Devil Gene, du gène démoniaque, pour parler de la Mishima Zaibatsu, pour parler de père et de fils qui se précipitent dans des volcans, mais à titre personnel je dois avouer que ça me fait beaucoup, beaucoup trop rire, et je trouve effectivement que ce Tekken 8 a une très bonne communication pour le moment. Et on va utiliser ce pivot du chiffre 8. 8 millions, c'est le chiffre de vente atteint par le jeu d'action survie Deep Rock Galactic, qui signe en fait la meilleure année de son histoire avec 2023. En 2023, Deep Rock Galactic a vendu 2,5 millions de copies. Ensuite, on a 5 millions. C'est ce que le DLC pour Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, a vendu depuis sa sortie dans le dernier trimestre 2023, ce qui fait quand même une belle perf, hein, faut bien le dire. Et justement, tant qu'on est dans les millions, Dave the Diver, le jeu indé, pas vraiment indé, venu de Corée, lui célèbre une victoire très symbolique. 3 millions de ventes depuis sa sortie fin juin 2023. C'est une Très belle performance. Et d'ailleurs, 3 millions, c'est aussi le chiffre que vient d'atteindre Street Fighter 6. Alors là, évidemment, si je le mets à côté de Dave the Diver, on dirait une saucisse. Mais une fois qu'on remet le truc en contexte pour la série Street Fighter, c'est quand même pas mal du tout. Hein, puisque Street Fighter 5, il avait mis en gros un an et demi à atteindre les 2 millions de copies. Alors que Street 4, bien sûr, la légende reste tout en haut. Avec 3 millions vendus en 2 mois de temps. Il aura fallu quelques mois de plus hein, à Street 6. Pour vendre ces 3 millions, mais c'est très encourageant pour le début d'exercice pardon, du nouveau jeu de combat de Capcom. Il fallait qu'on en reparle parce qu'on était resté sur une sorte de cliffhanger. La pause de fin d'année, elle a également été marquée par la conclusion du feuilleton The Day Before, hein, évidemment, un soi-disant MMO post-apocalyptique avec des zombies, développé en Russie, développé par un studio qui s'appelle Fantastic. On n'avait jamais trop entendu parler d'eux comme, en tout cas, un studio capable de sortir un truc aussi massif, jeu un qui a été ultra hypé pendant plusieurs années par des communicants pas très regardants, hein, qu'ils soient sur YouTube ou qu'ils soient les marketeurs de chez IGN, un jeu qui a été accusé plusieurs fois de plagier la communication des autres, de promettre des trucs qui n'allaient pas du tout livrer, de tremper dans le recyclage d'assets tout en prétendant que ce n'était absolument pas ça, et accessoirement de ne pas être très clair non plus sur les conditions de travail réelles au sein de son studio de développement et même à l'extérieur de son studio de développement d'ailleurs. Alors, The Day Before était-il un scam ou non ? En tout cas, 4 jours après sa sortie en accès anticipé, il était clair pour tout le monde que le jeu n'avait rien du MMO promis à la base, rien de révolutionnaire non plus. C'était un genre de Escape from Tarkov-like avec des systèmes mal finis, des zombies au comportement un peu risible, des possibilités multijoueurs beaucoup trop limitées par rapport à la promesse de départ. Bref, un truc soit développé à la va-vite, soit complètement survendu pour créer une bulle autour de lui, et la bulle qu'on connaît, la bulle qui a marché d'ailleurs, et peut-être sûrement un peu des deux d'ailleurs. Et c'est justement à ce moment-là, quand le monde était en train de se rendre compte qu'il y avait un problème avec cet accès anticipé de The Day Before, et que ce ne serait jamais le jeu qui avait été, en tout cas, qu'il prétendait être durant ces nombreuses années, eh bien c'est là que le studio Fantastic a annoncé sa fermeture. Et ça, c'est la partie qu'on n'avait pas abordée dans mon émission en fin d'année dernière. Alors la raison invoquée, c'est trop de dettes. Un succès trop limité sur ce début d'accès anticipé. Bah forcément, quand le machin est tombé à, il me semble, moins de 25% d'avis positifs sur Steam, ça limite un petit peu la propagation de l'effet viral du jeu, même si je pense qu'il a quand même réussi quelques belles ventes. Donc un début d'accès anticipé considéré comme trop timide au vu des dettes accumulées par l'entreprise. On remballe. Merci, bonsoir, avec en plus l'annonce que les serveurs allaient fermer début 2024, après une période d'incertitude où tout le monde s'est un petit peu demandé comment ça allait se passer pour les gens qui avaient acheté le jeu. Eh bien, on a vite compris que toutes les copies achetées seraient remboursées d'office. Envie de dire encore heureux, mais à la base, le but, c'était de dire, il y a un formulaire disponible si vous voulez vous faire rembourser, en comptant peut-être sur les gens qui n'allaient pas le faire. Donc, fermeture des serveurs début, censé se passer durant le mois de janvier, ou peut-être même que c'est déjà arrivé, et puis remboursement de tous les acheteurs et de toutes les acheteuses ce fameux The Day Before. Alors, en revanche, au sein du studio de développement, il semblerait que le dénouement soit moins heureux. Je veux dire pour les gens impactés par le développement du jeu. Voilà, il semblerait que le studio ait mis la clé sous la porte extrêmement vite, si bien que le site russe Shazoo, alors je ne connais pas très très bien la crédibilité du site russe Shazoo, donc faut remettre, voilà, on prend ça avec une pincée de sel et on remet les choses en perspective, mais le site rapportait mi-décembre que les employés en fait avaient été remerciés sans aucune période de préavis ni la moindre forme de compensation pour ce licenciement économique. De là, évidemment, les médias qui avaient surfé sur le phénomène ont doucement retourné leur par-dessus pour dénoncer l'arnaque, ou en tout cas dénoncer la piètre qualité du jeu. Chez IGN, par exemple, hein, où le service commercial avait littéralement négocié un accord marketing exclusif avec The Day Before. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les bonnes annonces de The Day Before étaient diffusées d'abord sur IGN via le programme IGN First. Eh bien, c'est finalement la rédaction, c'est finalement les journalistes qui ont tenté de remettre les choses à leur place en sortant un test du jeu, bien que le jeu soit déjà mort-né à ce moment-là. Le jeu était déjà plus achetable et pourtant IGN a quand même pris le temps, la rédaction d'IGN a quand même pris le temps de lui donner un 3 sur 10, un 3 sur 10 qu'ils estimaient juste compte tenu de la situation. Des journalistes qui sont encore en train de rattraper les bêtises du service marketing. J'ai déjà vu ça, mais ma mémoire me fait défaut. C'est dommage. Pendant ce temps, bien sûr, le patron de Square Enix écrit sa désormais célèbre lettre de nouvel an. Alors, les PDG de Square Enix, ça se succède, hein, bien sûr. Pourtant, la lettre des vœux du PDG de Square Enix, elle reste toujours un grand moment de déprime qui tombe parfois le 1er janvier et parfois le 2 janvier. Quoi qu'il arrive, c'est le premier truc qui te tombe sur l'orable quand tu suis l'actualité du jeu vidéo. Et ça manque pas. Chaque année, tu souffles fort. Alors, Takashi Kiryu a donc pris la suite de Yusuke Matsuda. Et pour lui, l'année 2024 ne sera évidemment plus celle des NFT et de la blockchain. Je crois d'ailleurs qu'il n'en parle quasiment pas ou pas du tout, mais celle, bien sûr, de l'IA générative et des IA génératives. On va pas jouer les surpris, de toute façon, hein, on sait que ça fait rêver plus d'un patron de grosses boîtes dans le jeu vidéo, et pas seulement au Japon. Bobby Kotick, par exemple, non pas que je fasse une fixette, même si peut-être quand même un petit peu, semblait bien parti justement pour pousser Activision dans cette direction autant que possible, avant que les plans ne changent, et avant effectivement que ce soit maintenant Microsoft qui décide. Chez Valve, hein, par exemple, hein, on s'est longtemps engagé à ne pas accepter la commercialisation de jeux qui font utilisation d'éléments générés par IA, hein, donc visuel, texte, musique, etc. Et chez Valve, on a décidé tout récemment de changer d'avis, hein, avec des règles qui sont censées supposer, enfin qui sont supposées encadrer le truc, et une responsabilité qui est confiée à la fois aux développeurs, avec il faut que tu certifies que ceci, que cela, que machin, que ta base de données n'est pas entraînée sur du contenu copyrighté, et puis ensuite une autre partie de la responsabilité qui va se reposer eh bien sur les utilisateurs qui pourront report, qui pourront signaler les jeux qui leur semblent contrevenir à ce set de règles, mais qui sont en fait, qui sont les joueurs pour décider de ce qui contrevient ou de ce qui contrevient pas quand tu n'as pas effectivement la main, les mains dans le cambouis et que tu as juste des suppositions. On savait hein, que Steam, en fait, Steam n'avait pas décidé de dire non aux jeux contenant du contenu. De jeux avec des éléments générés par IA. C'était pas ça. Steam attendait le bon moment, en fait. Hein, et à la base, on pensait simplement que Steam attendait que les législateurs fassent leur travail sur le sujet pour pouvoir ensuite y aller tranquillou en se disant c'est au niveau de la législation que ça se passera. Et finalement, Steam décide de le faire à un moment particulier, quand même, hein, du discours général autour des IA génératives, parce que c'est un contexte ultra explosif, pile justement là quand on a Midjourney, OpenAI qui sont pris la main dans le sac à entraîner leur IA avec du contenu sous copyright et qui, en forme de réponse, n'ont qu'un truc à base de « ouais, mais en fait, c'est un truc qu'on peut pas trop garantir, quoi ». Et c'est ce moment-là que Valve choisit pour dire que finalement, ils vont ouvrir les vannes sans mauvais jeu de mots, à croire que les quasiment 15 000 jeux publiés sur Steam l'an dernier, c'est pas suffisant et il en faut plus. Et là, on revient à Square Enix. Donc, dans ce contexte-là, alors que c'est de ça dont on parle actuellement hein, dans le jeu vidéo et l'approche des IA génératives de l'industrie du jeu vidéo, on a donc Takashi Kiryu, le nouveau PDG de Square Enix, qui écrit ses vœux de bonne année et dans lesquels on trouve cette citation que je vais vous laisser d'un bloc parce que je crois sincèrement qu'elle se suffit à elle-même. Attention, elle est un peu longue. L'intelligence artificielle et ses implications potentielles ont été pendant un temps des sujets de débat uniquement académiques. Cependant, l'arrivée de ChatGPT, déjà ça part super bien. Cependant, l'arrivée de ChatGPT qui permet à n'importe qui de produire facilement des écrits ou des traductions ou d'engager un dialogue a déclenché la diffusion des IA génératives. Les mois qui ont suivi ont vu une succession rapide d'introductions de nouveaux services qui ont étendu le potentiel des IA génératives à une variété de domaines intimement liés au divertissement numérique, les images, la vidéo et la musique. Je pense que l'IA générative peut changer fondamentalement les processus de création, y compris la programmation. Je vois que sur le chat depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de me dire à chaque fois tu oublies le code quand tu dis image, musique, son, etc., etc. Bien sûr, le graal absolu, c'est l'écriture de code par IA, en tout cas pour beaucoup de ces PDG, quoi. Donc oui, voilà, ça va encore être une bonne année, mais après il y a quand même des choses qui sont jamais vraiment arrivées jusqu'à nos rivages, hein, si vous voulez, hein, de ce côté-là. Square Enix, par exemple, débutait l'année 2023 en disant nous, ce sera NFT, 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 blockchain, blockchain dans tous les sens. Et au final, peut-être que ça a servi, peut-être que ça a été expérimenté dans des gachas mobiles japonais, par exemple. Mais comme vous avez pu le voir, nous, ça a un peu coulé sur nous, comme si on avait un joli petit ciré jaune, quoi. On en a, enfin, c'est vraiment une mode qui est passée sur Square Enix sans que ça vienne toucher vraiment notre expérience des jeux Square Enix. Donc ça, voilà, il faudra le voir. Mais c'est jamais bien rassurant de commencer l'année avec ce genre de lettre de bons vœux du PDG de l'entreprise. Et maintenant, on va continuer parce que pendant qu'on fait semblant d'être énervé contre Square Enix, alors qu'en fait, on va tous se jeter sur FF7 Rebirth comme des affamés, moi le premier, bah Nintendo en place une justement pour les fans de RPG, pour les fans de RPG et de JRPG à l'ancienne. Et je vous propose qu'on regarde cette bande-annonce parce qu'elle me fait plaisir. C'est des jeux que je n'ai jamais fait. Ils arrivent bientôt dans le Switch Online. Et quand je dis bientôt, je veux dire aujourd'hui, la série pas entière des Golden Sun. À moins que ce soit demain ? Allez, peut-être demain. Alors, le Switch Online, hein, c'est fait pour recevoir des jeux rétro. Et quand c'est des bons, bah déjà, on célèbre un peu le truc parce que parfois, les arrivées de nouvelles fournées sont pas non plus incroyables. On est là sur le diptyque Golden Sun, Golden Sun de Lost Age, donc les deux épisodes GBA, donc qui rejoignent le... Alors, non pas le Switch Online, hein, mais le Switch Online et pack additionnel, mercredi 17 janvier, donc demain. Pardon pour l'erreur de tout à l'heure. Notez bien que ce sont uniquement les deux premiers épisodes. On sait, bien sûr, que vous rêviez que l'ultime chapitre sorti sur Nintendo DS fasse partie des arrivées. Non, je pense que c'est pas le cas de grand monde. Eh bien, celui-ci ne rentrera pas dans le Switch Online demain. Moi, c'est des jeux que je n'ai jamais fait. J'en ai toujours entendu beaucoup parler, avec beaucoup d'émotion dans la voix auprès des gens qui me racontaient ça. Donc, très, 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 très hâte de les essayer. Sur les petits sujets rétro, quand même, on peut continuer aussi avec un premier round d'annonce. Alors, on est là sur du rétro revisité. Légèrement, un premier round d'annonce du côté de chez Limited Run Games, hein, qui prépare donc cette nouvelle année en annonçant deux compilations venues du catalogue Konami. Alors, soit le catalogue direct de Konami, soit le catalogue que Konami a fini par acquérir d'une manière ou d'une autre. Alors, une collection dédiée aux différents jeux Félix le Chat. Ne me posez aucune question. Je découvre qu'il y a eu des jeux Félix le Chat. Peut-être que ça a été les jeux de votre enfance. En ce qui me concerne, je n'y ai jamais touché. Donc, on va plutôt... vu que je m'y connais un tout petit peu plus sur l'autre collection qui s'appelle Rocket Knight Adventures Resparked et qui vous proposera donc Rocket Knight Adventures, le 100, Sparkster, la version Super NES, et puis également Sparkster Mega Drive. Attention, pas du tout les mêmes jeux. Peut-être qu'il faudra un jour qu'on live Félix le Chat. Est-ce qu'on peut, on peut live Félix le Chat dans le cadre d'un 10 mois Weeb ? Est-ce que c'était un des jeux de légende de Moguri ? Il faut qu'on éclaircisse cette question-là. Dans les annonces récentes de nouveaux jeux vidéo, parce que je vois que sur le chat ça grince un petit peu de tous ces remakes et de toutes ces recollections, eh ben, vous serez content évidemment de savoir qu'un nouveau Smite sort. Hein, le studio américain Ares, qui travaille hein, via une de ses filiales également sur le retour de la série Tribes, pour rappel, a annoncé Smite 2, suite donc du MOBA sorti il y a quasiment 10 ans. Et encore aujourd'hui considéré comme leur projet le plus porteur. Il faut dire que Ares aussi, c'est plus de fours que de jeux qui ont véritablement fonctionné sur le temps long. En tout cas, je vais éviter de me faire passer pour un spécialiste de MOBA hein, en l'occurrence, mais si vous allez vous intéresser un tant soit peu à l'annonce de Smite 2, vous allez immanquablement tomber sur la grogne des joueurs face à la politique du portage de contenu payant d'un jeu vers l'autre. En fait, Ares a déjà annoncé que les 1600 apparences en forme de skin introduite dans Smite 1 au cours des 10 dernières années, elle ne pourrait pas être conservée d'un jeu à l'autre. Et là, il faut vraiment les écouter expliquer le truc. Je m'en fous à titre perso, hein. Je suis pas là pour faire du drama là-dessus, je m'en tamponne. C'est pas mon truc et je suis pas suffisamment investi émotionnellement dans le jeu, mais vous allez voir où je vais. Ils ont tenu à justifier ce truc-là en disant que la recréation de ces assets, donc de ces différents skins, depuis un jeu Unreal Engine 3 vers un jeu Unreal Engine 5, donc En gros, il faut les recréer, il faut plus de détails, il faut, enfin, c'est pas juste une, tu peux pas juste prendre tes trucs détaillés comme dans Smite 1 et les mettre dans Smite 2. Ils ont tenu à citer Unreal Engine 3, Unreal Engine 5, c'est déjà un truc qui te met sur une mauvaise piste. Ça prendrait, et là je les cite, 246 ans de travail à une seule personne. Et là tu te dis, y a quand même de quoi rire, quoi. Tu te demandes pourquoi ils tiennent absolument à t'expliquer un truc parfaitement clarifiable avec un vrai cas pratique via une expérience de pensée qui n'a pas de sens. Et si on faisait faire des skins à une personne pendant 246 ans, on pourrait récupérer ces skins dans le prochain jeu. Moi, je me suis longtemps demandé pourquoi ils justifient ça comme ça. Je vais vous proposer une expérience de votre côté. Vous ouvrez une page Google et vous tapez Smite 2 246. Tous les sites ont titré ça prendrait 246 ans à une seule personne pour réaliser tous les skins de Smite 1 dans Smite 2. Donc ils ont fait du bad buzz, ils still buzz, et ça a marché à fond. C'est du rage bait, effectivement, à l'ancienne. Et une petite info qui avait fuité, filtré et qui finalement a été officialisé, il me semble, ce matin, un projet qui avait déjà été subi une fuite chez Ubisoft, qui s'appelle Project U, un jeu de tir coopératif. Pendant très longtemps, il a été vu de loin et les gens se disaient tiens, ça ressemble un peu à du Fortnite, etc. Mais c'est du jeu de tir coopératif. Ce Project U, va avoir une bêta fermée dans les prochains jours, et vous pouvez sur les premiers jours du mois de février, et vous pouvez vous inscrire si vous intéresse. Je vous ai mis le lien sur le chat. Hein, je le mettrai dans la description de la vidéo également. Donc a priori plusieurs équipes de joueurs, voilà, quelque chose de très grande ampleur, vont collaborer pour buter des robots, des petits robots, des gros robots. Je dois avouer que je suis un peu curieux, parce qu'en ce moment je suis dans une phase où je suis à nouveau curieux d'Ubisoft et de qu'est-ce qui se tramait pendant que j'étais en train de me dire qu'il n'y avait plus vraiment d'espoir. Bah, il se tramait par exemple Prince of Persia The Lost Crown, et bah ça a quand même fait la très belle surprise du début d'année en ce qui me concerne. Et normalement, si je ne m'abuse, on pourrait voir d'autres projets assez inconnus et assez nouveaux dévoilés par Ubisoft, peut-être dans la semaine. On en parlera très probablement, si c'est le cas, durant l'hebdo. L'hebdo d'Origami, bien sûr. Parce que là, c'est pas l'hebdo. Ça, c'est la Mardinale. Alors, dans le Game Pass et dans le PS Plus, dans les jours à venir, ou en tout cas sur les premiers jours de janvier, il y a eu quand même de la belle livraison. Hein. On peut se l'avouer. Alors, on commence avec le Game Pass. Alors, attention, il y a du bien et du pas bien. Alors là, effectivement, sur le début du mois de janvier, dans le Game Pass de Microsoft, on trouve quand même un Resident Evil 2 Remake qui s'est également invité dans le PS Plus Extra au même moment. On le rappelle, hein, le troisième plus gros succès de l'histoire de Capcom, le remake, celui dont vous avez tant entendu parler, est donc disponible sur cloud, console et PC, bien évidemment. On a également Assassin's Creed Valhalla, toujours une valeur sûre si vous avez envie de vous envoyer 140 heures de contenu. Figment également, hein, de l'aventure puzzle avec une très très jolie DA, qui a désormais... Est-ce que la suite de Figment est sortie ou pas l'an dernier ? On n'est même plus capable de savoir quel jeu est sorti ou pas l'an dernier, tellement il y en a eu. Et puis, oui, Happy Few si vous aimez l'expérimental. Et Close to the Sun si vous... Non, Close to the Sun, vraiment, je vous recommande pas. Honnêtement, faites autre chose. C'est pas incroyable, Close to the Sun. Hell Let Loose, si vous avez envie de vous faire un petit shoot de Seconde Guerre mondiale en multijoueur, avec des batailles avec une belle échelle tout de même, ça peut être l'occasion de s'y mettre. Et puis dans le sens des départs, hein, on a l'habitude désormais, le grand marathon, nous on l'a vécu pleine balle chez Origami, c'était le grand marathon d'Héloïse, la Linos, hein, vous la connaissez évidemment, pour finir Persona 4 Golden avant qu'il ne quitte le Game Pass le 15 janvier, soit hier. Et bien sachez que la mission que s'était fixée la Linos a été réussie. Elle a bouclé P4G juste avant son départ du Game Pass. Applaudissements pour la Linos, s'il vous plaît. Donc dans les départs, il y avait à la fois P4G, également Persona 3, et puis un ou deux autres dont j'ai déjà oublié. Alors c'était lesquels ? Je me suis perdu avec cette histoire. En tout cas, ils sont déjà partis, parce qu'ils sont partis hier, c'est plus la peine désormais. C'était surtout pour congratuler la Linos au final. Du côté du PS Plus, alors on va faire deux tours, hein. D'abord le PS Plus du côté de l'essentiel, et puis ensuite du côté d'Extra et Premium, les différents niveaux d'abonnement. Et bien pour l'abonnement essentiel, vous avez déjà là une belle livraison. Alors, Plague Tale Requiem, hein, le deuxième épisode du jeu d'aventure, Oui, des jeux d'aventure narrative. Nobody Saves the World, hein, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus alors aventure, indé, rigolo, loufoque, avec une excellente bande-son. Mais surtout, moi j'ai envie de vous orienter, si vous en avez envie, vers Evil West. Evil West, hein, donc, qui, on en parlait dans l'hebdo d'Origami de la semaine dernière, on parlait de mon attente de Warhammer 40 000, Space Marine 2. Et si vous avez ce genre de dalle-là, quelque chose de bien bas du front, où on tape très fort, où on tronçonne des démons, avec une petite vibe un peu Doom, des éclats, des gerbes de sang, vraiment un truc qui soit très sensoriel, vraiment, penchez-vous sur Evil West, hein, qui a vraiment cette proposition-là, une proposition qui de loin ressemble un peu à du God End, je dirais, mais qui, rien que dans, on va dire, l'envergure de ces personnages et la force avec laquelle ils frappent, pourrait être quelque chose d'assez non officiel Warhammer 40 000 au final. Donc je le recommande vraiment très chaudement, ça se joue très bien à la manette. Moi je l'avais fait sur Steam Deck, j'en avais un petit peu pesté parce que les perfs n'étaient pas encore incroyables à la sortie. Alors God End sans la technicité, hein, quelque chose entre God End et Doom 2016 par exemple. Mais vraiment, je vous recommande de vous pencher dessus. Et alors la prochaine fois qu'on va voler une image, ce sera chez qui? Eh bien cette fois-ci ce sera chez Phone Android manifestement, et ce sera pour le PlayStation Plus Extra et Premium. Sur ce mois de janvier, sur ce début de mois de janvier, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître Tiny Tina's Wonderlands, hein, donc le spin-off de Borderlands, qui est donc disponible en version PS5 et PS4. Et d'ailleurs, on reparlera du jeu aujourd'hui, vous verrez, pas forcément pour des bonnes nouvelles. On a également, comme je le disais, Resident Evil 2 Remake, désolé l'image est croppée. On a le jeu de découpage de carcasse spatiale, hein, Hard Space Ship Breaker, jeu de Blackbird Interactive, un studio dont on reparlera aussi aujourd'hui pour des motifs pas forcément extrêmement heureux. Et puis il y a la légende Lego City Undercover. Et si vous n'avez jamais fait Lego City Undercover, j'aurais quand même tendance à dire, je vais pas vous dire un truc horrible du genre faites pas Just Cause 3, faites Lego City Undercover, mais ça reste quand même un jeu qui a marqué beaucoup beaucoup de gens sur le temps très long. Arrive également dans le service Shadow Tactics Blade of the Shogun, donc le premier jeu d'infiltration tactique du studio Mimimi Games, qui ensuite a fait Desperados 3 et puis récemment Shadow Gambit. Et puis un jeu narratif dans l'univers de Vampire la Mascarade qui s'appelle Swan Song, ainsi que Surviving the Aftermath également. Ça c'est pour les arrivées dans le catalogue extra. Et puis dans le catalogue du PS Plus Premium, eh bien on a du jeu rétro ou moins rétro. En rétro PlayStation 1, on a Rallycross, jamais trop pratiqué moi Rallycross, mais on a également Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme, non pas Star Wars épisode 1 Racer, parce qu'il me semble que celui-ci est déjà dans le service. Également disponible en version PS4, Street Fighter, la collection des 30 ans, la collection anniversaire des 30 ans, Legend of Mana, ainsi que Secret of Mana PS4. Et quand on dit Secret of Mana PS4, en gros je parle bel et bien du portage, enfin du remaster 3D, ou HD il disait, mais en fait c'était une 3D moche, qui est en fait le remaster mobile. C'est pas super, c'est vraiment pas super. On va parler d'IA. Bon, voilà, avec une citation. J'ai fait tous ces sacrifices et soutenu le mouvement de grève la moitié de l'année dernière pour protéger mon métier de l'extinction, pas pour gagner le droit de vendre l'utilisation de ma réplique numérique. C'est une citation qui nous vient de Sunil Malhotra, qui est un comédien de doublage spécialisé dans l'industrie du jeu vidéo, en réaction, vous vous en doutez, à une récente signature d'accord entre le syndicat qui le représente, hein, SAG-AFTRA, hein, et Replika, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la recréation d'empreintes vocales de double numérique pour les entreprises, et notamment les entreprises du secteur du jeu vidéo. Alors le syndicat SAG-AFTRA, c'est le même que celui de la grève hollywoodienne de l'an dernier, hein, qui avait d'abord, ensuite, après s'être occupé de la télé et du cinéma, avait essayé, via ce qu'ils appellent le Interactive Agreement, de mettre les gros éditeurs mondiaux de jeux vidéo face à leurs responsabilités vis-à-vis de l'avènement des IA génératives dans l'industrie du jeu vidéo, en leur faisant signer un accord, hein, un accord qui allait encadrer l'utilisation des voix et des performances également, hein, ça peut être aussi de la performance capture et l'utilisation de leur réplication par ordinateur, par IA. Mais même avec un préavis de grève en poche, le syndicat SAG-AFTRA n'a pas réussi à faire avancer les négociations avec cette table où on pouvait trouver Epic Games, si je ne m'abuse, Electronic Arts, très probablement Take-Two. Je me demande si Activision, oui, Activision en était bien sûr sûr, évidemment, les négociations n'ont rien donné. Et voilà, ces jours-ci, il se trouve que le syndicat SAG-AFTRA, au lieu de déclencher cette grève, ils ont décidé d'aller toquer ailleurs, chez les gens qui produisent les outils qui sont utilisés ensuite par l'industrie, ou en tout cas qui produisent un des outils qui est utilisé par l'industrie, dans l'espoir d'obtenir des victoires directement à la source auprès des créateurs de software, en l'occurrence ici, comme je le disais, la société Replika. Et là, le but, c'était de garantir, via une discussion avec ces créateurs de logiciels, leur voix, que leur voix ne serait pas répliquée ou utilisée sans leur consentement, et puis ensuite, bien sûr, qu'une rémunération adéquate soit appliquée en cas d'accord donné par, j'allais dire, le propriétaire de la voix, mais par l'artiste, le comédien ou la comédienne de doublage. Mais en fait, pour de nombreux personnels, professionnels de la voix, c'est pas insuffisant cet accord. C'est considéré comme inadéquat. Et en faisant ça, eh bien, SAG-AFTRA normalise, selon eux, et donne son aval tacite à une espèce d'offensive qu'une partie des syndiqués, qu'une partie des membres de ce syndicat espéraient en fait combattre, réellement combattre. On a lu un peu partout des exemples comme celui de cet acteur, Sunil Malhotra. C'est des pros spécialisés dans l'audiovisuel et dans les médias interactifs qui estiment que cette signature, en fait, elle sabote une partie des efforts fournis tout l'an dernier durant le grand mouvement de grève, durant des mois où ces gens-là n'ont pas travaillé pour soutenir un idéal, et cet idéal, c'était de protéger cet artisanat et non pas de protéger le droit à répliquer et vendre cet artisanat, comme le disait Sunil Malhotra. Et donc, il y a d'autres personnes qui se sont élevées sur le sujet. La comédienne Shelby Young également, qui se demande même où est-ce que SAG-AFTRA est allé pêcher, ce communiqué dans lequel ils disent qu'ils assurent avoir consulté leurs membres et leurs membres les plus actifs avant de dire oui, alors même qu'elle avait l'habitude d'être consultée par le syndicat pour d'autres décisions. Là, ça n'a pas été le cas. C'est également le cas d'un acteur que vous connaissez bien, Elias Toufexis, qui est la voix de Adam Jensen dans Deus Ex, vous l'avez entendu il y a encore effectivement peu de temps dans Starfield. Je le cite, « Je me considère humblement comme l'un des doubleurs les plus actifs dans les jeux vidéo de ce syndicat. Personne ne m'a posé de questions à ce sujet, personne n'a demandé mon avis. D'après ce que je vois, personne non plus n'a posé la question à aucun de mes pairs, à aucun de mes collègues. » On a donc un front en fait, le front des comédiens, des artistes et des artisans de la performance dans les médias interactifs qui se désagrège en fait, qui se désagrège à peine et s'était-il formé pour entrer plus fort dans l'année 2024, avec des brèches assez évidentes dans ce front que certains industriels vont probablement tenter d'exploiter. Il faut s'y préparer cette année. C'est d'ailleurs l'une des craintes qui s'est le plus répétée lorsque SAG-AFTRA a fait son annonce en grande pompe pour dire on a abouti à un accord avec les gens qui fabriquent le logiciel Replika. C'est que les entreprises, elles viennent chercher auprès du syndicat une sorte de tampon de validation, mais que l'accord, pour l'instant, sa version actuelle, soit trop vague pour vraiment les protéger des utilisations abusives de leur voix. En gros, que ces accords soient un peu fantoches, qu'on vienne du côté de chez Replika dire « Ah ben voilà, regardez, j'ai ma petite carte qui dit que le syndicat SAG-AFTRA valide mon activité », mais qu'en vérité, on continue à entraîner ces modèles d'IA sur des contenus sans l'accord des ayants droit ou des ayants voix. Fin décembre, il y avait le gouvernement chinois qui avait lancé une nouvelle offensive sur le jeu vidéo et sur l'industrie jeu vidéo au niveau local, pour rappel, avec un projet de loi qui visait à encadrer les fameuses mécaniques de surprise, comme disait Electronic Arts à l'époque. D'encadrer les mécaniques de free-to-play et surtout leur utilisation dans les gachas, donc les microtransactions et la manière dont les jeux sont assemblés pour amener le public, et notamment le jeune public, voire le très jeune public, à dépenser soit leur argent, soit celui de leurs parents. Alors, je vous fais pas le détail, ça va des trucs les plus évidemment dégueux dans la proposition de loi, ce qu'il faudrait réguler, comme la commercialisation de lootbox auprès des mineurs. Oui, ça c'est évidemment dégueu, il faudrait que ça reste dans le texte de loi. Et puis d'autres trucs bien plus normalisés par le style du gacha en Chine, avec les guillemets bien sûr, comme les récompenses quotidiennes, ou bien sûr l'impossibilité de se procurer certains objets, certaines skins, autrement que via des jeux de hasard, des ouvertures de boîtes hasardeuses, des mécaniques de surprise, comme je disait Electronic Arts. Et en quelques jours, en fait, les marchés financiers chinois ont renvoyé cette balle très très fort au gouvernement, avec une chute absolument drastique de l'action observée chez la plupart des géants du secteur. Alors ça veut dire Tencent, ça veut dire NetEase, ça veut dire Bilibili aussi. Les cours bien sûr sont remontés depuis, mais la cicatrice reste assez béante. Et résultat, la première prise de parole 2024 du gouvernement chinois sur le sujet du jeu vidéo, c'était des excuses. Hein. La proposition de loi, elle aurait été élaborée de manière précipitée, selon eux. Le gouvernement du pays considère en gros qu'il n'y a pas eu suffisamment de consultations avec les partenaires, et les partenaires c'est bien sûr Tencent, NetEase, etc. Et d'ailleurs, le gouvernement chinois en a même profité pour renvoyer l'homme politique, l'homme d'État qui était chargé de ce projet, hein, qui a fait fusible donc le superviseur de l'administration chinoise de la presse et des médias, qui encadre aussi le jeu vidéo. Donc c'est un personnage qui avait également servi de figure au régime chinois lors de son offensive sur le jeu vidéo de 2021. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque la Chine avait décidé d'imposer des restrictions très très drastique sur le temps de jeu, notamment chez les enfants et les adolescents, tout en suspendant l'attribution de permis commerciaux aux éditeurs. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2021, à un moment, en fait, les éditeurs chinois recevaient des permis de distribution de nouveaux jeux au compte-gouttes et avaient des jeux qui étaient prêts à sortir, mais le gouvernement les empêchait, leur donnait pas leur licence commerciale, tout simplement. Depuis, bien sûr, le gouvernement chinois, il a tenté de calmer le jeu et d'aider justement l'industrie à retrouver ses couleurs, parce que ça a été difficile de redémarrer après la crise Covid, plus cette offensive gouvernementale en 2021. Mais la confiance était encore manifestement assez fragile, hein, vu la vitesse à laquelle les marchés ont pris peur en voyant ce texte de loi et interprété ça comme une nouvelle déclaration de guerre. Mais du coup, Pékin a depuis décidé qu'ils allaient se montrer plus rassurants en limogeant la personne qui s'est occupée effectivement de faire la première version de ce texte de loi, en proposant un nouveau texte plus proche des intérêts des éditeurs et qui serait désormais en travail là-bas. Donc voilà, ça permet de faire un point rapide sur les relations entre les NetEase et les Tencent avec leur propre gouvernement. Ça reste en fait assez utile pour, parce que sinon en fait nous ça nous touche pas directement, mais ça reste assez utile pour comprendre un petit peu mieux pourquoi le jeu vidéo chinois cherche tant à s'exporter, cherche tant à prendre des parts ailleurs, etc. C'est vraiment une question de, voilà, les coups des franches, l'impression effectivement d'étouffer, de ne pas pouvoir distribuer autant et vendre autant qu'on le voudrait dans son propre pays. Je suis pas en train de les plaindre non plus, on parle de Tencent, de NetEase, on parle de mécanique de surprise, et on parle grosso modo quand même de beaucoup de gacha tournés vers les gamins, hein, attention. Mais effectivement, cette idée-là qu'on a de se dire, attends, le jeu vidéo chinois qui s'exporte, etc., ça fait tout de suite penser à Black Myth Wukong, hein, qui est ce Souls-like, on va dire, Soulsborne-like, qui doit sortir cette année et qui est un peu le grand espoir du jeu vidéo chinois dans son exportation. Alors pour rappel, en revanche, c'est pas un jeu NetEase, c'est pas un jeu de Tencent, c'est pas un jeu de chez Bilibili non plus. D'ailleurs, Game Science en fait n'appartient pas vraiment à un grand groupe chinois, sans dire qu'ils sont complètement indépendants. Ils ont déjà travaillé avec Tencent par le passé, manifestement ils en sont pas extrêmement contents, et depuis en fait il y a Tencent qui possède 5% de l'entreprise pour l'instant évidemment, mais ça s'arrête là. C'est vrai que Black Myth Wukong, c'est un peu contre-intuitif, mais n'est pas la tête de pont de cette arrivée effectivement des gros éditeurs chinois sur le jeu vidéo premium AAA tel qu'on le connaît. Donc du côté du phénomène Marvel Snap, on reste en Chine, on s'était quitté sur une autre chaîne, la mienne, sur un très gros pivot d'un autre géant chinois, ByteDance, qui sont les propriétaires de TikTok pour rappel, mais aussi de l'éditeur Newverse. Et Newverse, en tout cas jusqu'à ce que ByteDance dise « bon, nous le jeu vidéo, on arrête », eh bien c'était plusieurs centaines de personnes qui travaillaient au contact notamment de l'édition de Marvel Snap et qui sont retrouvés sur le carreau en fin d'année dernière. Marvel Snap s'est retrouvé, qui est un jeu américain pour rappel, s'est retrouvé en position de devoir chercher un nouvel éditeur, ou en tout cas de devoir trouver une solution pour pouvoir continuer à exister, pouvoir continuer à payer les salaires, etc. etc. Sans grande surprise, le studio américain Second Dinner a trouvé un nouveau partenaire financier. On n'est pas particulièrement, voilà, les bras m'en tombent pas, hein, pour la suite. Ils ont trouvé donc plusieurs partenaires financiers autour d'un tour de table d'investisseurs. Ce sont 100 millions de dollars qui ont été levés. c'est pas tout à fait Maigrelet comme somme, avec comme objectif principal, bien sûr, de continuer sur Marvel Snap, hein, peut-être de transformer ce qui est un phénomène culturel en phénomène financier, puisque bah, Marvel Snap n'a pas suffisamment, en tout cas, rapporté, selon ByteDance, pour en être satisfait. Et puis ensuite, une fois qu'on suit bien sûr bah, la roadmap 2024 de Marvel Snap, etc., eh bien se diversifier aussi. Hein. Le studio derrière le jeu va se retrouver, via ses investissements, via cette injection de cash, eh bien à développer, commercialiser de nouveaux jeux. Sachant que dès le communiqué, hein, le PDG de l'entreprise, qui s'appelle Hamilton Chu, il ne fait pas grand secret du fait que 100 millions, c'est bien. Ça met le studio à l'abri du danger immédiat, tout ça, mais s'il y avait moyen de se faire racheter ou de signer un contrat d'édition avantageux, Second Dinner, c'est le nom du studio, pourrait, et là je le cite, sauter sur la première bonne opportunité qui passe. Du coup, là, du côté de chez Second Dinner, l'année commence pas trop mal. On a faim, et ça tombe bien, on a à manger. Je suis désolé, j'avais dit qu'on allait essayer d'équilibrer un petit peu tout ça pour que chacun s'y retrouve, parce que le jeu vidéo, c'est difficile à suivre actuellement, parce que c'est déprimant parfois, mais on entre à nouveau, dans un tunnel qu'on appellera le Licenciaton V2. Il y avait la V1 l'an dernier, et puis bah là, on continue, c'est pas un tunnel, c'est un toboggan. Hein, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, Unity, le fabricant du moteur de développement de jeux vidéo du même nom, avait légèrement minimisé dans ses communications ses futurs plans en matière de restructuration quand ils en avaient parlé en novembre de l'an dernier. Hein. On avait vu le nouveau PDG intérim de Unity, qui s'appelle James Whitehurst, qui est un ancien de Red Hat. Il avait prévenu qu'il y aurait encore des compressions de personnel. On avait vu 200 personnes de plus renvoyées par Unity quelques semaines avant Noël. Personne n'était vraiment préparé à ce que la rentrée 2024 se fasse avec une nouvelle charrette de 1800 suppressions de postes, soit 25% des effectifs de l'entreprise d'un seul coup. On pensait que c'était ça, les 200 avant Noël, que c'était ça, les licenciements restants. Et c'est donc ça le fameux reboot, le fameux redémarrage que teasait le patronat de l'entreprise à l'époque. Un véritable coup de tonnerre, hein, qui fait suite aux quatre précédents, hein, je suis désolé de le dire, puisque on a eu 300 personnes licenciées en janvier 2023, 600 en mai, 200 en juin, 200 de plus sur la fin d'année 2023, qui concernait notamment la branche Weta Digital, et maintenant 1800. Quoi. Je remets un petit peu en contexte parce qu'on a lu pas mal de choses sur cette nouvelle opération de licenciement, notamment comme quoi ce serait le résultat direct de la dernière annonce extrêmement polémique de Unity. Vous ne l'avez pas raté non plus, je pense, celle sur laquelle ils sont déjà revenus hein, au bout de quelques semaines. Alors, il y a effectivement un dernier domino hein, avec cette décision ultra contestée par la communauté, par les développeurs, par le public, etc. Mais c'est le dernier domino, en fait, hein, d'une série qui a commencé avec bah, l'entrée en bourse de l'entreprise en 2020. Hein, après quoi, il y a eu, comme vous le savez peut-être, énormément de dépenses, parfois assez lunaires, qui ont été faites pour s'offrir des nouveaux services qui soient capables d'exciter les actionnaires. On était en 2020, toutes les entreprises faisaient grossir leur masse salariale de manière complètement exponentielle, en se disant que bah, maintenant le jeu vidéo c'était comme ça et puis c'est tout. Donc toujours plus d'embauches, toujours pas de rentabilité, hein, c'est bien ça aussi le problème de Unity. Une action et un cours de l'action qui n'a jamais voulu décoller. Hein, et ça c'est quand même un truc assez fou, c'est-à-dire que plus Unity achetait des trucs en disant mais maintenant on a Weta Digital, regardez comme on est sexy, enfin, il faut bien que l'action remonte, et elle n'a jamais frémi, elle n'a jamais voulu bouger dans le bon sens. Et puis effectivement c'est vrai, à l'issue de cette série de dominos là, eh bien le dernier clou dans le cercueil de la présidence de John Riccitiello, c'était cette idée d'une taxe sur l'installation des jeux, rétroactive au début, imposée aux développeurs, qui a conduit Riccitiello à démissionner pas très longtemps plus tard. Je crois qu'on dit Riccitiello, alors que moi je dis Riccitiello, mais c'est pas très grave. Et maintenant, effectivement, le gars qui a repris les rênes, il est en quelque sorte en train d'annuler de manière extrêmement brutale et de manière absolument non responsable des années entières d'une stratégie ultra douteuse, et il le fait en licenciant un maximum de monde quoi, pour le bien de l'entreprise hein, évidemment hein, c'est toujours la même rengaine. Alors je ne sais pas pour Whitehurst, parce que il est PDG intérim et il n'est pas là depuis longtemps, Mais historiquement, les grandes pontes de Unity, ils prenaient des salaires absolument démesurés, hein, vu le manque de rentabilité de l'entreprise. Et s'il y a bien un truc qui n'a pas trop été annoncé dans ce company reboot, comme ils appellent ça, eh ben c'est une autre politique en la matière. Ça pourrait arriver, mais pour l'instant, c'est pas le cas. En revanche, on sait aussi que depuis cette dernière phase de licenciement, eh bien les six cofondateurs de IronSource, qui est la boîte de monétisation que Unity avait rachetée pour 4,4 milliards de dollars fin 2022, eh bien ils en ont profité pour se faire la malle, déployer leur parachute et sortir de l'opération Unity. Hein, la rumeur voudrait d'ailleurs que l'idée de cette taxe, hein, souvenez-vous, cette fameuse taxe dont on a tant parlé, eh bien ce soit en très grande partie une idée qui vienne d'IronSource après la fusion IronSource-Unity. Et d'ailleurs, la fusion avait, entre les deux entreprises avait été assez mal accueillie, hein, par une partie des employés et des clients de Unity, puisque avant en fait de bosser dans le free-to-play et dans la monétisation de free-to-play, la société IronSource, elle a commencé à faire son beurre et à exister dans le business du malware. Et au moment où Unity avait le choix entre deux entreprises avec lesquelles fusionner et qu'ils ont choisi IronSource, déjà en interne, ça s'est assez mal passé. Désormais, les six cofondateurs d'IronSource sont partis après avoir bien empoisonné la flotte. Et voilà, le company reboot est terminé. Et on verra ce que Unity a prévu de faire dans les temps à venir. Très probablement se recentrer sur leur cœur de métier, bien sûr, hein, ils n'ont pas arrêté de le dire à chaque fois qu'ils ont pu, et on va surtout espérer que ce soit la fin des charrettes de licenciement, même si on ne va pas se mentir, je ne veux pas tomber dans le misérabilisme ni quoi que ce soit, mais 2024, il faut se préparer, ça va continuer comme 2023. Et puis, bon ben voilà, Unity certes, mais également la tournée de la grande faucheuse Embracer n'a quasiment pas discontinué durant les fêtes, notamment chez le label 3D Realms, on va dire ça comme ça, on va dire à la française, 3D Realms, hein, et son studio de développement principal Sleepgate Ironworks, c'est des spécialistes du boomer shooter, hein, faut aimer ça bien sûr, et ils ont subi une première passe de licenciement à la mi-décembre, et à peine rentrée des vacances, des fêtes de fin d'année, c'était déjà les deux premières entités en fait à déclarer des licenciements pour l'année 2024. Ce qui fait que le projet Core Decay, je sais pas si vous vous souvenez, un Deus Ex 1 like que je vous avais montré dans l'émission il y a quelques semaines, semble avoir été annulé. On ne sait pas non plus si Phantom Fury et Tempest Rising, qui étaient les développements actuellement en cours chez Sleepgate, continuent ou non. 3D Realms est entré dans le giron d'Embracer, pour rappel, en 2021, durant la grande boulimie du groupe suédois, et les estimations post-nouvel an laissent comprendre que, a priori, l'entité que le label forme avec son studio de développement aurait perdu plus de la moitié de ses employés entre début décembre et début janvier. Embracer est également allé toquer à la porte de Lost Boys Interactive, qui est une filiale de sa filiale Gearbox. Suivez, vous allez voir, c'est tout simple, que le grand public en fait connaît surtout comme co-développeur de Tiny Tina's Wonderlands, hein, je vous ai prévenu qu'on allait reparler du jeu, donc un spin-off de Borderlands. On parle en fait d'une entreprise dont on connaît pas trop le nom, hein, Lost Boys Interactive, ça nous parle pas comme ça, mais sur son site officiel, on parle d'une entreprise qui dépasserait les 400 employés tout de même, ou en tout cas qui les dépassait. Parce que là encore, on manque d'un chiffrage officiel sur la nouvelle compression ordonnée par Embracer. On ne sait pas exactement quelle est la taille du couperet qui vient de tomber, mais on a un ex-producteur au sein du studio qui parle d'une portion, je cite, importante du studio qui aurait été licencié, et c'est un terme qui est corroboré par un directeur artistique qui est encore en poste dans le studio, qui s'appelle Nick Barron, qui lui précise que avec de telles suppressions, elles sont forcément vouées à impacter profondément les capacités du studio dans le futur. Ça pue un petit peu, le Embracer va en faire un studio de moindre catégorie encore, et encore plus un studio de soutien, et encore moins un studio de codev qu'il ne pouvait l'être. Alors, on peut répéter en cœur exactement la même phrase que tout à l'heure. Lost Boys Interactive a été racheté par Embracer avec le reste du groupe Gearbox en 2021, durant la boulimie de rachat du groupe suédois. Et puis bah, ce licenciement de masse, il intervient alors même que, eh bien, Embracer s'est dit ouvert aux négociations pour revendre des parties de son empire. Hein. Il y a une déclaration qui a été faite de ce côté-là. Et puis quelques jours plus tard, il y avait des rumeurs, parfois manifestement assez solides, qui laissaient entendre que le groupe de Lars Ungefors, qui est le patron de Embracer, aurait déjà des contacts pour une éventuelle revente de toute la branche Gearbox. Et peut-être, effectivement, en tout cas, ça correspondrait. Peut-être qu'avant ça, effectivement, tu soignes un peu le paquet cadeau, tu fais perdre un peu de poids à ta montgolfière, et puis, voilà, tu la revends à quelqu'un qui n'avait pas forcément besoin de tous ces développeurs, mais surtout besoin de ces licences-là, quoi. En tout cas, on devrait le savoir assez vite, parce que l'actualité ne va pas vraiment attendre qu'on soit rentré de plein pied dans cette nouvelle année pour, à mon avis, continuer sur les news un peu déprimantes de ce genre, quoi. D'ailleurs, je lisais l'autre jour les prédictions 2024 d'un analyste qui s'appelle Joost van Drooijnen. Je vous recommande sa newsletter qui s'appelle Super Joost. D'ailleurs, ça, je le mettrai aussi dans la description de l'émission. Hop, attendez une seconde, je vais me le noter. Donc, Super Joost, et je suis assez d'accord avec lui quand il dit que Asmodee ne finira, Asmodee qui pour rappel a été racheté par Embracer, ne finira probablement pas l'année entre les mains d'Embracer justement, et que la restructuration actuelle du groupe, elle passera immanquablement par une revente de cette branche-là, certainement à perte d'ailleurs. Asmodee hein, qui a été racheté par Embracer, en 2022, durant la boulimie du groupe suédois. Combien de fois j'ai prononcé cette phrase ou une variante de cette phrase au cours des 6 derniers mois, je ne sais pas. Bon, le reste, on l'a fait court. L'éditeur américain Tiny Build a décidé de licencier une douzaine de personnes, seulement une douzaine de personnes à quelques jours des fêtes. Et en fait, c'était l'intégralité du label Versus Evil, que vous connaissez peut-être. Hein, c'est eux qui avaient édité Unmetal, la parodie de Metal Gear Solid, Mother Gunship ou Tower of Guns. Mais c'est pas tout, hein, y a d'autres jeux que vous connaissez peut-être. Et personne n'avait vraiment été prévenu en amont de la fermeture pure et simple d'un éditeur, d'un petit éditeur. Pas même justement les développeurs qui avaient un jeu actuel développé en partenariat avec Versus Evil. Et donc ils ont découvert un 22 décembre qu'ils n'avaient plus d'éditeur et qu'il allait falloir collaborer avec Tiny Build, la maison mère, à la rentrée. Donc grosse ambiance évidemment. On pense par exemple à Broken Roads, hein, ce jeu, ce RPG, on va dire RPG roguelike, j'ai l'impression, qui parfois rappelle un petit peu dans sa direction artistique Disco Elysium, qui est développé en Australie et qui est signé justement chez Versus Evil, qui doit sortir cette année. Il n'est plus chez Versus Evil désormais. Mais il est chez Tiny Build, il a perdu comme ça son éditeur à deux jours de Noël. Ça doit être bien angoissant pour les développeurs. On a également vu des licenciements chez Bossa Studio, les développeurs de Surgeon Simulator. Il y a un tiers de l'équipe qui a été renvoyée durant la première semaine de janvier. Twitch licencie fort, Discord licencie également. Les patrons du magazine Kotaku sont venus couper quelques têtes de plus pour la nouvelle année. Et le studio First Contact Entertainment, qui sont les créateurs de la série PSVR Firewall, peut-être que vous avez joué à Firewall ou à Firewall Ultra, eh bien eux ferment tout simplement leurs portes quelques mois seulement après la sortie de Firewall Ultra justement sur PSVR 2. Je les cite, ils déplorent un manque de soutien de l'industrie et des sphères financières pour justement ces projets VR aux ambitions AAA. Ce qui les empêche en fait de continuer à développer le genre de jeu pour lequel le studio a été fondé, des jeux VR AAA et ambitieux. Je voulais aussi vous proposer peut-être quelques idées de tendance, en gros une espèce de sommaire ressenti de ce qu'on va être amené à aborder dans cette émission sur l'année à venir, la mardinale jeu vidéo, les sujets chauds de 2024, on l'a compris, ce sera encore cette crise hein, qui fait boule de neige, qui voit des studios fermés, d'autres licenciés et d'autres souvent indépendants galérer comme pas possible à obtenir des financements pour leurs projets, et ça on en reparlera à mon avis plusieurs fois. La question de la VR justement elle est intéressante ainsi hein, parce qu'il faudra voir comment les gros acteurs et notamment comment Meta décidera ou non de continuer à dépenser sur le sujet. On sait que la division Quest, elle n'a pas particulièrement rentré du bénéfice durant la fin d'année 2023. Et il faut espérer, par exemple, que Sony ne lâche pas le ballon sur le PSVR 2, parce que c'est un excellent matériel que j'aime beaucoup et qui, en plus de ça, a manifestement, au final, bien réussi son lancement, même si on a l'impression de ne pas en avoir beaucoup entendu parler. Mais faut que ça suive derrière. Et effectivement, il y a Apple qui arrive sur le marché aussi, mais avec une proposition un peu plus hybride. Faut voir un petit peu comment tout le monde va se placer sur ce marché-là et comment on en parlera d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'on en parlera encore véritablement comme un point d'eau pour les développeurs de jeux vidéo ou est-ce que justement Apple va encore plus faire pivoter le truc vers d'autres utilisations. Donc ça, c'est un sujet évidemment qu'il faudra surveiller. Ce sera encore bien sûr toujours les IA génératives, on en a déjà suffisamment parlé aujourd'hui. L'offensive évidemment pressante de l'Arabie Saoudite sur le monde du jeu vidéo, et je suis à peu près sûr qu'on reparlera de consolidation du jeu vidéo cette année. Là, on a l'impression qu'on n'en parle plus, qu'il n'y a plus de rachat de studios, etc. Déjà, il y a l'Arabie Saoudite, qui à un moment ou à un autre va finir par racheter quelque chose, il faut s'y préparer, mais il y a aussi certains des gros groupes qu'on a cités aujourd'hui qui présentent quand même pas mal de symptômes, ou en tout cas de petits indices d'entreprises qui seraient prêtes, non pas à vendre tout bien sûr, mais une partie peut-être de leur empire. Embracer évidemment avec Gearbox, Electronic Arts qu'on a vu préparer le terrain en séparant EA Entertainment et EA Sports, et l'air de rien, Ubisoft qui est toujours dans cette quête d'équilibre. Bien sûr, Ubisoft n'est pas du genre à fermer des studios, mais peut-être qu'Ubisoft serait du genre à revendre des studios, et c'est peut-être aussi de ça dont on pourrait se retrouver à parler cette année. Mais je pense sincèrement que les rachats, alors pas du tout au prix des années 2021-2022, parce que c'était complètement délirant, c'était une bulle qui était en train d'éclater, mais avec la baisse justement de ces taux d'intérêt, on y revient, je pense sincèrement qu'on va peut-être reparler de ça, et on pourra relancer à nouveau la fameuse blague de quand est-ce que Sony rachète Square Enix, puisque manifestement c'est le truc qui revient à chaque fois qu'on parle de ça. Sur un autre sujet, les récents lancements de Lego Fortnite, de Rocket Racing, de Fortnite Festival, bref, d'autres expériences au sein de Fortnite sont venues confirmer le succès, en tout cas auprès du public, de cette nouvelle mue pour Epic Games. Je dis Epic Games parce que c'est plus pratique. Et je pense qu'on devrait voir peut-être d'autres ambassadeurs du genre, histoire de garder cet élan et de tirer un maximum de revenus de ce qui reste. Fortnite, le poumon principal de Epic. On a vu les récents licenciements chez eux, directement liés au fait que le rapport entre les revenus de Fortnite Battle Royale et les dépenses d'Epic... Non, c'était Fortnite Battle Royale ou la partie créative qui rapportait moins? Bref, un des deux rapportait moins, et il y avait énormément de dépenses chez Epic, le rapport n'était plus bon. Et Epic va continuer à avoir besoin de beaucoup de cash, en tout cas s'ils veulent continuer à se battre sur absolument tous les fronts, contre Google, contre Apple, contre Valve, avec l'Epic Game Store, parce que pour l'instant, cette éponge n'a pas été jetée, contre Roblox, naturellement, contre les autres distributeurs de moteurs, parce qu'il y a l'Unreal Engine aussi, et tout ça, ça demande du cash, et ça veut dire que Fortnite doit rentrer un maximum, et je pense que là ils sont effectivement sur une lancée qui va les amener à peut-être maintenir ce pas de course sur la transformation. Je crois qu'ils appellent ça le Epic 5.0 ou un truc comme ça. En tout cas, ils doivent rentrer plus. Voilà, c'est mon petit conseil à Tim Sweeney, appelle-moi, j'ai des idées. Non mais bref, je vous raconte juste un petit peu ce que je ressens comme ça. Du côté du syndicalisme, enfin, nous y sommes tout de même. Et ça risque de subir une grosse accélération dans le jeu vidéo cette année, en réaction naturellement à cette année 2023 absolument dramatique pour les pros du JV, et puisque ça va continuer en 2024 également. En plus, certaines portes ont déjà été ouvertes à des points clés de l'industrie, notamment l'industrie nord-américaine qui a encore du retard sur ce sujet. Chez ZeniMax Bethesda, on a un syndicat qui a été fondé, plusieurs centaines de personnes, chez Activision également, et globalement, en fait, chez Microsoft, puisque Microsoft a vraiment ouvert cette porte-là, cette vanne-là, sur le sujet, au moment où ils avaient besoin de racheter Activision, et ils avaient besoin de se présenter en ami du mouvement syndical potentiel. Et donc, il risque d'être pris au mot par plusieurs équipes d'employés au sein du groupe Xbox, et je pense qu'il faut s'attendre à ce que d'autres cellules syndicales tente de se monter. Il y a normalement chez Microsoft un pacte de non-agression sur le sujet, donc normalement on reconnaît les initiatives syndicales et on dit ok, on commence à négocier avec vous, il n'y a pas de problème, en tout cas chez Xbox, ou en tout cas chez les studios Activision rachetés par Xbox. Il faudra voir si ça vaut aussi, si Turn 10 décide demain de se syndiquer, si 343 décide de se syndiquer, tout ça, on va l'observer. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un sujet, c'est une locomotive qui avait commencé à se lancer de manière assez claire en 2023, et les conditions de travail ne s'améliorant pas, je vois pas pourquoi cette locomotive-là, elle, ralentirait, ça me semble assez évident. Et il y a un article sur Bloomberg de Jason Schreier qui, justement, fait un petit peu les prévisions, ses prévisions 2024, et pour lui, l'année devrait également être la dernière épreuve du feu du jeu-service, en tant que tendance générale de l'industrie, bien sûr. Et je veux dire que je suis assez d'accord avec lui, c'est-à-dire que on a vraiment dépassé les années en thème. On a désormais des flops qui sont très clairs et qui se confirment en une semaine et qui deviennent très rapidement des jeux oubliés. Et Quand on voit que Bungie licencie, quand on voit que Epic licencie, bah, ce sont quand même de très gros signaux d'alarme et qui sont envoyés en fait dans une langue que les financiers du jeu vidéo comprennent. C'est de blé qu'on parle. On sait par exemple hein, qu'une bonne fraction des développements de jeux services initiés par Sony PlayStation sur la fin de l'ère Jim Ryan, qui va se terminer bientôt, ont déjà été soit annulés, soit rebootés. Et même Tencent, on l'a vu à la fin de l'année dernière, Tencent dans sa collaboration avec Remedy, donc les développeurs de Alan Wake et Alan Wake 2, et Control et tous les autres bien sûr, et Max Payne, ils ont fini par donner le feu vert à Remedy pour rebooter le projet Vanguard, qui devait être un free-to-play, dans le but d'en faire un jeu premium. On est dans un moment de jeu vidéo où Tencent donne son go à un studio pour transformer un jeu free-to-play en jeu premium. La symbolique me semble quand même absolument immense, et on risque effectivement de bien moins voir ces jeux-là arrivés. On risque de voir, à mon avis, beaucoup moins de gros éditeurs se lancer encore là-dedans et en tout cas essayer de prendre un train Destiny qui est passé il y a 1000 ans. Et on risque très malheureusement, très très malheureusement, je pense, de tomber sur le rable. Et on le voit un petit peu partout où on regarde de Suicide Squad Kill de Justice League, qui manifestement n'a pas que ça à proposer, mais qui est déjà le nombre de miradors avec des snipers qui sont dressés déjà devant la porte de sortie du jeu est incroyable. Il va prendre non seulement pour tous ceux qui avaient un train de retard, comme Anthem, comme quelques autres, mais il va prendre aussi pour tous les autres, j'ai l'impression, et j'en viens à être curieux du jeu et de ce qu'il a vraiment proposé, parce que c'est Rocksteady, parce que c'est le Arkhamverse, etc. Mais j'en viens à être vraiment inquiet. Est-ce qu'on va réussir à dépasser ça, à dépasser le symbole que le jeu représente, pour aller voir quelles sont vraiment ses qualités derrière? Du coup, de manière assez bizarre, ça me donne envie de jouer à Suicide Squad Kill de Justice League. Et puis bon, il y a forcément, voilà, je parlais des licenciements massifs dans le jeu vidéo et dans la tech, on va pouvoir mesurer les effets de ces licenciements de masse sur l'industrie au global. Un marché du travail qui est inondé de profils, c'est potentiellement un marché du travail dont les grilles salariales vont, enfin, ont de grandes chances en tout cas de s'effondrer. Et quand, justement, ces taux d'intérêt dont on parlait tout à l'heure vont redescendre et qu'il va y avoir une nouvelle ruée vers l'or, vers le jeu vidéo, eh bien ce sera parfois aussi, à mon avis, des équipes triple A ready qui seront en fait montés en vitesse avec des juniors, plein de juniors, payés pas très très cher, qu'on va mettre dans une pièce, dans un grand open space, en espérant que la sauce prenne et qu'ils deviennent opérationnels pour sortir ensemble du triple A qui envoie quoi. Bien sûr, c'est pas un truc dont on verra les résultats sur le jeu vidéo à sortir en 2024, mais je pense sincèrement qu'on s'engage, désolé, hein, c'est encore la prophétie du corbeau, hein, je pense qu'on s'engage vraiment dans une génération de pré-prod en souffrance et d'équipes du coup qui souffrent elles aussi de ces décisions-là, parce que justement, on est vraiment venu, comme je le disais, inonder le marché du jeu vidéo de profils qui ont la dalle et qui prendront les salaires qu'on leur donnera pour les postes qu'on leur donnera. Quoi. Et là, c'est une sorte de lien hypertexte mental vers mon paragraphe du dessus à propos du syndicalisme dans le jeu vidéo. Et donc, bien sûr, je pense aussi que cette année, c'est que des banalités, hein, pardon, mais je pense que la question du marché physique semble bien partie pour se poser plus fort cette année que la précédente. Oui, ça se posait déjà beaucoup plus fort que l'année encore avant. Hein. Le cocktail des offres d'abonnement, les consoles sans lecteur, les supports physiques qui ne contiennent même plus un vrai jeu jouable à la sortie, ça fait forcément son petit bonhomme de chemin dans la tête des gens, dans les mentalités de manière générale. Le marché Xbox, on l'a vu, hein, même Limited Run Games, on a parlé il n'y a pas très très longtemps, est déjà particulièrement passé de l'autre côté de cette barrière du dématérialisé, mais même de manière très générale, la question du marché physique et la question de la préservation du jeu vidéo, qui peuvent se poser parfois ensemble et parfois séparément, elles risquent d'être encore effectivement très centrales et des sujets importants de l'année. On rappelle que Embracer se targuait de vouloir monter un grand musée de la préservation du jeu vidéo. Bon, on peut sortir sur une note positive. La note positive, c'est évidemment la Switch 2, bien sûr. Alors, hein, voilà, pour laquelle une grande partie du public et des médias attend Nintendo quand même au tournant cette année. On entre dans le pic de cycle d'attente d'un nouveau Mario 3D. Il y a vraiment une grande question de rétrocompatibilité qui se pose aussi, ou en tout cas qui anime les discussions. Et puis la question aussi du sempiternel twist. Quelle sera l'idée nouvelle de la prochaine machine de Nintendo? Est-ce qu'il y a besoin d'une idée nouvelle quand t'as trouvé l'idée qui t'a fait vendre autant de consoles? Parce que tu vas pas juste faire la même console avec des performances supérieures. autant effectivement de questions qui vont se poser et pour lesquelles on aura voilà, pas mal de réponses à venir. Alors il y a ça bien sûr, mais il y a des trucs que j'avais pas noté, notamment voilà, on sait que l'un des grands enjeux, en tout cas l'un des arguments de Microsoft lorsqu'ils ont réussi à racheter Activision, lorsqu'ils voulaient racheter Activision, c'était de dire aux régulateurs de la concurrence, je vous ai re-ramené dans ce sujet, je suis très fier de moi, de dire aux régulateurs de la concurrence, oui mais regardez, en achetant King, on va pouvoir nous aussi venir peser sur le marché qui pour l'instant sur un duopole du jeu mobile, enfin en tout cas du store mobile. Et on sait que Microsoft aimerait bien, ou en tout cas a réfléchi plusieurs fois de manière consécutive, s'introduire sur le marché des stores mobiles avec les déverrouillages de ces stores et de ces OS qui sont actuellement, enfin de ces écosystèmes plutôt, qui sont actuellement ordonnés par certaines autorités de la concurrence, justement. Donc Microsoft s'intéressant au mobile un petit peu plus, effectivement, ça risque de se passer cette année. Microsoft illustrant, alors il y a eu pas mal de rumeurs durant les fêtes, j'ai pas trop prêté attention, mais Microsoft continuant à illustrer le fait que les exclusivités de toutes les licences possédées par Xbox désormais, eh bien ça se fera au cas par cas, et que certains jeux pourraient sortir ici ou là, selon l'envie, selon le besoin, selon le désir de faire fructifier un maximum un jeu, c'est encore, je pense, une possibilité. Ça fait partie des sujets comme ça qui me viennent en tête. Et puis, bien sûr, comme je le disais, la question de l'écosystème indépendant, de comment il survit, on en parle beaucoup ici, mais ces développeurs indépendants qui, au prétexte qu'ils ne sont pas en capacité de proposer à des financiers, aux derniers financiers encore actifs dans le jeu vidéo et aux éditeurs frileux, une suite d'un jeu qui a bien marché, eh bien, se retrouvent avec sur les bras des jeux qui ont très bien avancé dans leur développement, qui sont toujours, qui reçoivent toujours un accueil extrêmement sympathique dans les réunions de travail avec les éditeurs, mais où ça se termine toujours en mode oula, non, pas en ce moment, bien sûr, il y a un moment où ça va redémarrer, encore une fois on en revient au taux d'intérêt, etc. Mais pour l'instant on sait qu'il y a des développeurs qui comptent les sous, qui sont au jour, qui sont à la semaine, et il y a deux histoires sur lesquelles je voudrais vous emmener en lecture avant qu'on regarde quelques bandes annonces. C'est d'abord celle des développeurs de A Little to the Left. Alors c'est un jeu de rangement, je ne sais pas si vous connaissez A Little to the Left, genre il faut remettre des crayons dans le bon sens, droit, etc. Et en fait, ils ont fait un petit post-mortem du jeu et notamment de la communication avant la sortie du jeu chez Games Industry, et ils parlent notamment de l'impact qu'ont pu avoir les différents passages du jeu lors des Wholesome Direct. Vous savez, ce Wholesome Direct, ce truc qui est censé être tout doux avec des jeux tout doux et où nous on peste en disant non mais attends, c'est pas possible, il y a 80 jeux en une heure, c'est ultra violent, comment les développeurs peuvent s'y retrouver? Et bien justement, les développeurs de Little to the Left le disent, nous on s'y retrouve. On s'y retrouve au niveau des wishlists, on s'y retrouve pour surnager là dans le marasme actuel. Et bah, pendant qu'on regardait ailleurs et pendant qu'on faisait pas attention, A Little to the Left a vendu 1 million de copies. Et ça, c'est notamment grâce à ce genre d'absence, de présence régulière dans ce genre d'événement. Donc il y a le fait d'être commentateur de ces trucs-là, où c'est horrible, vraiment. Pour une rédaction, pour quelqu'un seul comme moi sur ma chaîne ces 3 dernières années, etc. Et il y a manifestement dans l'œil du public quelque chose qui se passe et qui se traduit en vente et en bonne santé pour un studio. Alors un studio de 2 personnes bien sûr, mais c'est plutôt bon de savoir que s'ils continuent à faire comme ça, c'est parce que c'est au service des développeurs. Et puis une histoire, évidemment pour contrebalancer toujours, qui a été postée récemment sur Reddit, celle du développeur Marco Guardia, qui s'appelle Surviving 2023, vous la retrouverez sur Reddit. Donc Marco Guardia, il fait partie du studio Demi-Monde, qui a notamment créé un jeu de plateforme un peu psyché, qui s'appelle Octahedron. Je vous recommande, la BO, elle est très bien, et le jeu aussi d'ailleurs. Et justement, il y a un long post Reddit dans lequel en fait le dev propose, et là je le cite, un coup d'œil aux coulisses de l'industrie du jeu vidéo depuis le point de vue d'un indépendant. Et comme vous vous en doutez, c'est pas une histoire heureuse. Alors Marco Guardia, en fait, il raconte la quête désespérée d'un éditeur stable pour un projet qui est très bien avancé, qui est considéré comme très prometteur par toutes les personnes à qui il le montre. C'est une quête qui commence en 2021 comme une belle histoire. on trouve un éditeur direct, très vite, et puis soudain, on entre en 2022, et les budgets sont coupés. Et les collègues disparaissent du jour au lendemain, et les salaires commencent à ne plus tomber, jusqu'à la rupture soudaine du contrat d'édition en 2022. Et depuis, 2023, pour Marco Guardia, ça a pris la forme d'une gigantesque chasse à l'éditeur désireux de l'accompagner, d'accompagner son équipe. Plus de 90 maisons d'édition de jeux vidéo contactées. Je ne savais même pas qu'il y avait 90 acteurs que tu puisses aller contacter pour éditer du jeu indépendant actuellement. Et donc, a priori, beaucoup de sociétés qui étaient méga chaudes à la base pour le projet, mais toutes très frileuses à l'idée de prendre un risque. Et ici, le risque, c'est juste genre éditer quelque chose que les joueurs ne connaissent pas déjà ou... On préfère en fait se tourner vers les jeux plus gros budget parce qu'ils sont plus porteurs, ou t'aurais pas un deck builder parce que c'est la tendance actuellement. Bon, là c'est rigolo de dire ça maintenant parce qu'on est littéralement dans la deck builder fatigue et désormais plus personne ou presque n'en veut. Ou t'aurais pas un tactical quand c'était la mode du tactical, hein, quand on était tous et toutes en train de jouer à Into the Breach. En fait, il n'y a rien de très surprenant hein, si vous suivez l'industrie tous les jours. C'est l'éclatement de cette bulle jeux vidéo durant l'année 2022 qui touche tous les niveaux de l'industrie. Il y a énormément de voilà, et les Vampire Survivors, like, à un moment, bien sûr, Konala, t'as tout à fait raison sur le chat. Mais à un moment, en fait, effectivement, il y a énormément de fonds d'investissement qui ont retiré leur bille pour aller voir ailleurs. Les taux d'intérêt qui ont grimpé, je l'ai déjà dit plein de fois. Les gros rachats, l'embouteillage de jeux financés en 2020 qui a abouti sur l'année 2023 à un moment où personne ne sait plus comment se distinguer dans la masse. Tout ça, mais raconté depuis le point de vue d'un dev qui cherche à maintenir une équipe et un projet à flot, mais qui n'a pour l'instant aucune idée de comment tenir jusqu'à ce qu'un nouveau cycle financier reprenne, quoi. Alors c'est déprimant, bien sûr, à lire, ça pose une ambiance et des questions pour la suite, pour l'année qu'on s'apprête à traverser et tout, mais c'est vraiment super intéressant et super vital comme lecture, je la recommande vraiment, parce que pour nous autres joueurs, joueuses, pour gens qui observons la débâcle actuelle en se demandant « Mais attends, c'est quoi les clés de ce truc-là ? Est-ce que vous avez vraiment tout essayé ? Combien de gens vous avez rencontrés ? À quel point vous êtes en galère ?» Ce genre de coup d'œil de l'autre côté est vraiment, vraiment, vraiment hyper intéressant, quoi. Donc voilà. Quelques sorties, portages plutôt dans les jours à venir. Immortality sortira sur PS5 le 23 janvier, hein, le dernier jeu de Sam Barlow. Grime également, un Metroidvania à base d'hommes cailloux, arrive sur Switch le 25 janvier. Le 25 janvier. Hitman Blood Money, avec une version qui s'appelle Reprisal, arrivera sur Switch aussi. Est-ce que c'est le meilleur Hitman ? Peut-être encore, je ne sais pas, ça dépendra de vous. Sort sur Switch donc le 25 janvier également. Et puis, je me suis dit que j'allais quand même vous diffuser 3 bandes annonces avec des nouveaux jeux, ou en tout cas des jeux que peut-être vous attendez, et vous serez content de savoir qu'ils sortiront bientôt. Le 23 janvier, donc dans quelques jours, ce sera la sortie de Little Guardsman. Souvenez-vous de Little Guardsman.
Did I click the mic on right? Testing. Hello. What do I think makes a good gate guardsman? First and foremost, you have to be someone who likes working with people.
I am not a monster, and I do not care to be labeled as such.
You have no honor, little one.
But also, you have to be a good judge of character.
Thank you, trusting little girl.
Don't come stepping on me or I'll knock you right back on your
Holy crap. But the most important thing is to be decisive. There's no room for second guessing in this line of work.
There's a very important deadline that could affect the fate of the entire kingdom. You don't know what you're doing.
Oh, I don't like any of my answers. I'll take a do-over.
Alors, vous l'aurez compris, hein, Little Guardsman, ça va amener quelque chose de mignon avec une DA qui rappelle certains dessins animés, même si peu d'animation finalement, avec finalement une philosophie de base qui est celle de Papers, Please, quoi. Vous allez rester à votre poste frontière, rencontrer toutes sortes de personnages, vous allez aussi sortir du poste frontière et puis décider un petit peu, bien sûr, de leur destin, de leur capacité ou non à passer la porte avec différentes conséquences à vos actions. Donc effectivement, le chat dit Papers, Please chez les magiciens, et j'ai l'impression que ça pourrait être ça, même s'il y a également, comme vous pouvez le voir, des combats tour par tour, ainsi que plein d'autres mini-jeux. En tout cas, l'Hill Guardsman sort le 23 janvier et il y a une démo qui est peut-être toujours disponible. Oh, édité par Versus Evil, c'est fou. Il est vieux ce trailer. Il a quoi, au moins 3 semaines? On rappelle que Versus Evil a fermé le 22 décembre. Bref, donc on espère surtout que ça ne va pas empêcher le développeur de distribuer son jeu sans le moindre souci. Ce serait dommage. Un autre jeu qui sort sur cette fin de mois de janvier, on parle déjà de la fin du mois de janvier, mais quelle honte, c'est Phantom Abyss. Il sort d'accès anticipé. Phantom Abyss, vous le connaissez peut-être, une édition de chez Devolver avec un mélange de multijoueurs asymétriques, de dungeon crawling, de runner dans lequel on doit atteindre la fin d'un temple bardé de pièges et à chaque fois en fait bah, il faut aller deux, voilà, il faut, y a un défi, il me semble que c'est un système de défis quotidiens avec des créations de temples par les développeurs et d'autres par la communauté. Je sais plus si la communauté a une main dans ce qu'on fait dans Phantom Abyss. Voilà, c'est sûr que le trailer, il est un peu court, hein, mais bon, vous avez un petit peu l'idée. Ça a quand même très très bien marché sur Steam en accès anticipé Phantom Abyss. Moi, j'avais bien aimé le tout début, même si j'étais évidemment mauvais à crever. Bon, comme d'habitude, j'ai l'habitude. Et voilà, et une autre date que j'avais envie de voilà, mettre sur votre calendrier un peu plus tard, c'est le 23 avril 2024. En fait, sur le mois d'avril, il va se passer des choses pour la licence Fallout. Il va y avoir la série Amazon Prime. On a envie de la voir ou on n'a pas envie de la voir, il n'y a pas de jugement. Hein. Mais il y a aussi la sortie de Fallout London. Alors Fallout London, je vais pas vous montrer une bonne annonce parce que la vidéo d'annonce de la sortie du jeu dure 13 minutes, mais Fallout London, c'est une totale conversion pour Fallout. C'est un mode sur lequel une équipe de modeurs travaille depuis très très longtemps, le but étant effectivement d'étendre le principe des vaults et de la mise à l'abri. Durant la guerre nucléaire, et bien cette fois-ci de la Grande-Bretagne. Ça fait très longtemps que ça bosse sur le projet. Le truc a l'air complètement fou en termes de production value, en termes de transition justement même culturelle que ça impose évidemment hein, de passer sur un Fallout vers la Grande-Bretagne. Alors si je ne m'abuse hein, bien sûr c'est un mode pour Fallout 4 hein, comme vous pouvez le voir, ça ne pourrait pas être on retrouve nos abris de Fallout 4, vous savez un petit peu où vous êtes par rapport à ça. J'ai vraiment très 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 hâte de me pencher dessus et de voir si c'est un mode qui est fait par des fans vraiment de l'école Bethesda ou si c'est un mode qui est fait sur un jeu Bethesda par des fans d'une école un peu plus vieille ou en tout cas au moins de l'école Obsidian quoi. Donc ça il faudra vraiment se pencher dessus et tant qu'on est dans l'ère du modding, nous on se retrouvera demain sur cette même chaîne à 10h30 parce que je compte bien lancer Portal Revolution qui a très très bonne presse hein, encore une fois une nouvelle aventure avec les outils proposés, les outils et les éléments proposés par Portal. Il paraît que c'est vraiment très très bien, il paraît que c'est de niveau professionnel, ai-je lu plus d'une fois, quoi que ça veuille dire. Donc merci infiniment d'avoir suivi jusque là, c'était un gros format mais c'était aussi parce que c'était la sortie des vacances, le but hein, vous le savez si vous suivez un petit peu ce que je fais, c'est plutôt d'essayer de comprimer ça dans 1h15 seulement sur l'actualité du jeu vidéo par semaine, c'est déjà pas mal, surtout quand vous avez encore à côté l'hebdo et les autres émissions d'Origami. Donc voilà, ça entérine l'existence réelle de ce programme dans la grille d'Origami et je vous le rappelle, eh bien si vous désirez soutenir mon travail sur cette émission, eh bien en fait vous soutenez mon travail sur Origami, ça se passe sur le Patreon d'Origami, patreon.com/origamimedia, et si vous aviez déjà un soutien du côté de mon Patreon personnel, eh bien faites-le migrer quand vous voudrez, mais faites-le migrer, ça fera extrêmement plaisir. Merci infiniment, prenez grand soin de vous, et puis à très vite en fait. Vendredi c'est les Origami Awards, à 19h sur Twitch, et il y aura des costumes. J'ai pas vraiment acheté mon costume encore, donc ça, il faut que je m'en occupe vitesse grand V. Non, vraiment, il faut pas trop que je... faut que je me presse. Mais avant ça, bien sûr, je vais monter cette émission et la poster sur YouTube comme j'ai l'habitude de le faire, ce soir, les mardis, c'est la Mardinale, le soir sur YouTube et sur vos applications de podcast, vous cherchez la Mardinale JV, si vous étiez abonné à la Matinale JV en podcast, eh bien le flux reste le même, vous n'avez rien à faire, prenez grand soin de vous, excellent après-midi, rejoignez Flo cet après-midi sur Metal Gear, je crois qu'il va doucement s'approcher de Vulcan Raven, en tout cas, je sais que Sniper Wolf, c'est terminé. Prenez grand soin de vous, merci encore pour votre présence, pour votre curiosité, pour votre soutien peut-être, et à très vite. Salut !